Avant de nous lever ensemble pour prier, lisons une parole de psaume, peut-être du psaume 95, du psaume 95. Ici, il est dit, venez, acclamons le Seigneur, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Verset 2. Présentons-nous devant lui avec des actions de grâce. Poussons vers lui avec des cantiques, des cris de joie. Le verset 3. Car le Seigneur est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Verset 4. Lui, dans la main duquel sont les profondeurs de la terre et à qui appartiennent aussi les sommets des montagnes. Verset 5. C'est à lui qu'appartient la mer. C'est lui qui l'a créée. Et la terre ferme, ce sont ses mains qui l'ont formée. Verset 6, venez, adorons et prosternons-nous, fléchissons les genoux devant le Seigneur, notre Créateur. Verset 7, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aussi vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Verset 8, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert. Verset 9, là où vos pères m'ont tenté, m'ont éprouvé alors qu'ils voyaient mes actions. Verset 10, pendant 40 ans, j'ai eu en horreur cette race en disant, c'est un peuple au cœur égaré. Mais ils n'ont pas voulu connaître mes voies. Verset 11, je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon lieu de repos. Jusque-là, cette précieuse parole de Dieu, cet appel que ce psalmiste a lancé en son temps à ses contemporains. Mais nous savons que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Elle n'a pas été prononcée seulement pour être dite une fois, mais elle nous est restée jusqu'à ce jour, jusqu'à cette heure et ce jour, et cela nous concerne ce soir. Et cet appel, cette invitation nous concerne ce soir. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir venir et de pouvoir en effet louer notre Dieu, l'acclamer, le louer, venir devant lui avec des cris de joie, chanter des louanges. Comme on a lu ici au verset 1, venez, acclamons le Seigneur, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Verset 2, présentons-nous devant lui avec des actions de grâce, poussons des cris de joie avec des cantiques. Chers frères et sœurs, si nous ne le faisons pas, si nous ne le faisons pas, nous qu'avons reçu sa grâce, nous qui l'a racheté de tous nos péchés, qui l'a purifié de toutes nos transgressions, qui l'a affranchi et délivré et désigné pour son peuple, pour être son peuple, qui le fera? Oui, ces gens-là, en ces jours-là, pouvaient s'approcher et rendre gloire à Dieu. C'est notre temps, celui où nous pouvons venir, celui que Dieu a choisi pour nous, pour toi, pour moi, pour nous tous. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce de Dieu, lui chanter des louanges et lui rendre gloire, lui apporter l'honneur, car il est un Dieu véritable, celui dans la main duquel tout existe et qui est le maître de tout, et il le restera pour l'éternité. Ici, ce psalmiste dit au verset 7, « Car il est notre Dieu, et nous le peuple de son pâturage, le troupeau de sa main. » Oui, frères et sœurs, si nous sommes conscients de cela, nous ne pouvons qu'être d'accord avec le cantique, car nous savons aujourd'hui encore dans nos rues, Jésus-Christ marche. Jésus-Christ marche. Celui qui veut l'embrasser complètement là, oublie tout le reste. Ce soir, nous voulons oublier tout ce qui nous entoure, nous voulons tourner nos pensées et notre cœur vers lui, car nous savons qu'il n'est pas loin, il est proche de nous. C'est ainsi que nous voulons lui offrir l'honneur et l'adoration. Levons-nous maintenant et adorons le ensemble. Dieu fidèle, nous te remercions ensemble, Seigneur, pour ce jour de grâce, pour ce moment, pour cette heure où nous sommes arrivés. Nous te remercions de tout cœur, ô Dieu, de nous avoir préservés jusqu'à cette heure, d'avoir gardé tes mains protectrices sur nous. Et nous, en tant que ton peuple, avons pu nous rassembler ici à nouveau pour t'offrir ensemble l'honneur et la louange. Tu connais nos cœurs, tu connais nos désirs, mais tu es notre Dieu, vers qui irions-nous? Nous ne pouvons pas faire autrement que de t'offrir l'honneur et la louange. Seigneur, notre Dieu, nous sommes ton peuple, le troupeau de ta main. Ô Seigneur, Seigneur, qu'il en soit ainsi, comme l'a demandé ce psalmiste. Puissiez-vous aujourd'hui écouter sa voix? Dieu fidèle, nous savons que tu nous parleras encore ce soir par ta parole sainte et précieuse, et nous voulons écouter ta voix. Nous ne voulons pas endurcir nos cœurs, non Seigneur, mais nous voulons les ouvrir et prendre en considération ce que tu as à nous dire. Dieu fidèle, aie pitié de moi, aie pitié de nous tous. Nous sommes si heureux d'être ton peuple, le troupeau de ta main. Reçois l'honneur, reçois la louange et l'adoration aussi en cette heure du soir. Bénis tous ceux qui sont venus ce soir et aussi ceux qui n'ont pas pu venir au Seigneur. Puisses-tu les rencontrer tous, ô Dieu, et les bénir de la richesse de ta grâce. Telle est ma prière au nom de Jésus. Amen. Louange et merci au Seigneur. Je pensais que frère Rousse resterait ici et que je pourrais m'asseoir tout de suite. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Vous savez que lorsqu'on va chez le dentiste, vous pouvez certainement le voir de là-bas, on ne se sent pas bien. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur de pouvoir nous réunir et d'entendre sa parole. Quelqu'un a dit, le pire des sermons est toujours mieux que pas de sermon du tout. Et après tout, nous ne connaissons pas de mauvaises prédications. Même si elle est parfois bâclée, elle vient de la parole de Dieu. Et Paul écrit, notre connaissance, notre savoir, tout est partiel, tout est en partie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est en partie, cessera. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce travail en partie. Il n'y a aucun homme sur terre qui puisse prétendre être parfait, prétendre à la perfection, tout ou bien infaillible, tout autour. Dieu seul est parfait en tout. Dieu seul a une vue d'ensemble et nous dépendons de lui du début à la fin. Je ne pourrais sans doute pas parler longtemps aujourd'hui, et encore moins à voix haute, mais c'est pour cela que nous avons ici les haut-parleurs et le microphone. Les paroles que nous avons déjà entendues me vont droit au cœur à chaque fois. 1 Corinthiens 10 et Hébreux 3, la dernière partie s'y prête bien. Où Paul présente encore une fois l'histoire du peuple d'Israël devant nos yeux dans la perspective du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait de grandes choses. Car la promesse qu'il avait faite à Abraham, il l'a accomplie plus tard, après 40 ans, sous Moïse. et que malgré cela, le peuple de l'Alliance, le troupeau de sa main, le peuple de son pâturage est persisté dans l'endurcissement du cœur et la désobéissance. C'était pire pour Dieu que comme s'il s'agissait d'un fidèle auquel il n'avait jamais parlé, auquel il n'avait jamais fait de promesse, qu'il n'avait jamais fait sortir, dont il ne s'était jamais occupé. Pour Dieu, c'était une grande douleur. Cette expression est peut-être humaine, mais Dieu ressent très fort. Et quand il est dit ici, au verset 8, « N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme au jour de Massa dans le désert. » Qu'est-ce que c'était? Là aussi, Moïse a contesté avec Dieu. Le peuple a contesté avec Moïse et Moïse s'est précipité et a dit, « Pouvons-nous vous donner de l'eau de ce rocher ?» Nombre 20, verset 10. Et il a frappé une fois et encore une fois. Et Dieu s'est fâché. Et nous entendons dans le sermon de Frère Branham, c'était un type, une allégorie sur Christ. Christ ne devait être frappé qu'une seule fois, comme le rocher. Il ne devait être crucifié qu'une seule fois et pour toujours, ou avec une validité éternelle. Nous savons que l'histoire du salut ne commence pas seulement dans le Nouveau Testament. Elle commence dans les premières pages de la Bible, pardon. Et lorsqu'il est écrit ici au verset 10, « Pendant 40 ans, j'ai eu en horreur cette race en disant, c'est un peuple au cœur égaré. Un peuple au cœur égaré, mais ils n'ont pas voulu connaître mes voix. » Nous pouvons retracer les 40 étapes, il y en a exactement 40, que le peuple d'Israël a parcouru dans le désert pendant ces 40 ans, où ils se sont arrêtés et comment ils ont continué. Mais à quoi cela leur servait-il à tous si Dieu avait du dégoût pour eux? Et dans le Nouveau Testament, Paul en parle. Comme je l'ai déjà dit dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 10, ce sont des paroles d'avertissement, de réprimande qui doivent nous toucher le cœur à tous et nous pousser à nous examiner nous-mêmes. Il est dit ici au premier verset 1 Corinthiens 10, « Je ne veux pas en effet que vous ignoriez, frères, que nos pères se sont tous tenus sous la nuée et qu'ils ont tous traversé la mer, verset 2, et ont tous reçu le baptême en Moïse dans la nuée et dans la mer, verset 3. Dans la nuée et dans la mer, verset 3. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, verset 4. Et ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont bu à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. C'est ce que nous lisons ici dans le Nouveau Testament. Ils se tenaient sous la nuée. Le Seigneur était descendu dans la nuée. Le jour, une colonne de nuée La nuit, une colonne de feu, la présence directe de Dieu le Seigneur, au-dessus de son peuple, avec son peuple. Et quand il est dit ici que le baptême se fait dans la mer et dans la nuée, les deux signifient avec le baptême d'eau et avec le baptême du Saint-Esprit. Je pourrais vous lire dans Néhémie que Dieu leur a donné son esprit dans le cœur. Néhémie 9, verset 20. En effet, avec Dieu, il n'y a pas de changement. Et nous voyons que toutes ces expériences n'ont pas changé leur cœur, que tout est resté comme avant. Et c'est là que nous arrivons avec les trois cercles que frère Branham a dessiné jusqu'au cercle le plus intérieur, à savoir l'âme. Et là, il dit si clairement, on peut être véritablement baptisé du Saint-Esprit dans le deuxième cercle, c'est-à-dire dans le domaine de l'esprit, et dans le troisième cercle, c'est-à-dire au plus profond dans l'âme, on ne peut même pas être né de nouveau. De sorte que malgré les bénédictions extérieures, on conserve intérieurement l'ancienne voix, les anciennes pensées, les anciennes traditions et coutumes, ses propres voix. Tout reste comme c'était avant. Dans le Nouveau Testament, Dieu veut nous aider. Il veut pénétrer au plus profond de nous-mêmes. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas possible de racheter l'âme de l'homme par le sacrifice des animaux. Il fallait le sang de l'agneau pour racheter l'âme. Mais maintenant, Dieu veut pénétrer dans l'âme pour à partir de là prendre le contrôle de tout le reste. Nous lisons ici, au verset 3, tous ont aussi mangé la même nourriture spirituelle, verset 4, et ont tous bu le même breuvage spirituel. La manne, la nourriture des anges, tombait du ciel chaque jour, et pour le sabbat, une double mesure en un jour de semaine. Tout était au milieu d'eux, tout. Et pourtant, rien n'avait été fait en eux. Rien n'a changé en eux. Bien-aimés, nous pouvons tout avoir au milieu de nous. Les plus grandes bénédictions, la parole la plus glorieuse, la nourriture spirituelle, est abreuvée spirituellement, la boisson, l'eau spirituelle. Nous pouvons tout avoir au milieu de nous. Mais à moins que Dieu puisse faire naître ce germe de vie dans l'âme de chacun, pas seulement entre nous, autour de nous et par nous, au milieu de nous, mais en chacun de nous. Je lisais encore tout à l'heure dans la prédication avec le titre « Pourquoi crier ?» Parle. Et là, frère Branham explique que si la lumière tombe sur la zone où doit se trouver la graine, si elle est là, elle sortira. Mais si elle n'est pas là, bien que la lumière arrive sur ce lieu, si la semence n'est pas là, elle ne peut pas non plus sortir. Nous avons reçu la semence divine dans une mesure telle que le peuple de Dieu n'en a jamais reçu dans un autre temps depuis que l'homme existe. Maintenant, notre responsabilité est d'autant plus grande, car comme il est écrit, à celui à qui il a été beaucoup donné, il sera aussi beaucoup demandé. Luc 12, 48. Dieu exigera plus de nous que des croyants d'il y a 50 ou 100 ou 200 ans. À celui à qui il a été beaucoup donné, il sera aussi beaucoup demandé. Au verset 5, il est écrit de 1 Corinthiens 10, mais Dieu n'a pas pris plaisir à la plupart d'entre eux, car ils ont été abattus dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir de modèle d'avertissement. Nous pourrions continuer à lire. Dieu veut que son bon plaisir repose sur nous. Et cela ne se produit que dans l'obéissance à lui et à sa parole. Il n'est pas possible d'être agréable à Dieu simplement parce que nous faisons bonne figure et pensons faire ce qui est juste. La filiation divine, la position de fils et de fille nous a été présentée lors du baptême de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans le Jourdain. C'est là que les cieux s'ouvrirent et que l'Esprit descendit. Réponse de Dieu et la voix a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. » Et puis encore la même chose sur la montagne de la transfiguration. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Matthieu 17, 5. Et celui qui l'écoute, celui qui le croit, celui qui entre dans cette filiation divine, celui qui naît de la même parole et de la même semence, il ne peut en être autrement. Il aura aussi le bon plaisir de Dieu. Mais il faut être né du même esprit de Dieu, né. Christ était la semence, était la parole, semence, la semence de la parole. En lui s'est manifestée la parole de la promesse divine. Ce qui doit naître de toi, est-il dit, vient du Saint-Esprit. Luc 1, 35. La parole de la promesse placée en elle, le Saint-Esprit est venu, a donné vie à la parole qu'elle a reçue. Et déjà, le début était fait. Le commencement était fait. Il doit en être de même maintenant avec nous tous. Non pas l'appartenance à une assemblée, mais il s'agit de naître de Dieu. Comme le dit notre Seigneur, à moins que quelqu'un ne soit né de nouveau, sinon il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Si donc quelqu'un est né de nouveau, écrit Paul, voici que les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. Devenu nouveau. Et cela dans l'âme, dans l'esprit, dans la vie, devenu nouveau. Des qualités divines, des attributs divins apparaissent. Dans les Hébreux, au troisième chapitre, nous lisons à peu près le même contenu. Les mêmes pensées. Il est dit ici, nous pourrions commencer directement par le verset 7 d'Hébreux 3, mais déjà le verset 18 est directement important pour moi. Commençons par là, Hébreux 3, verset 18. Et qui sont les gens à qui il a juré de ne pas entrer dans son repos? Ce sont ceux qui se sont montrés désobéissants. Verset 19, nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Si l'on lit d'autres passages bibliques, alors le mot péché apparaît toujours. Et frère Branham l'a exprimé très clairement. C'est par l'incrédulité que tout commence. Et il est dit clairement, celui qui pêche, c'est parce qu'il ne croit pas. Donc, l'incrédulité était la racine, était la véritable raison. Dieu veut que nous le croyons. Et je veux dire que dans chaque assemblée, dans chaque réunion, pendant de nombreuses années, lorsque frère Branham devait prêcher, on chantait auparavant le chœur « crois seulement, tout est possible à celui qui croit ». Et nous avons un livre entier, la Bible, rempli de témoignages des héros de la foi. Le mot « héros de la foi » est aussi une chose. Si nous considérons les hommes de Dieu, et que nous regardons aussi leur domaine terrestre, ils étaient tout, sauf des héros. Mais si nous considérons le domaine divin, ils ont vaincu des royaumes, ils ont éteint la puissance du feu, ils ont fait des choses qui n'ont pas d'équivalent. Ces mêmes hommes qui, une fois livrés à eux-mêmes, étaient faibles, ont été forts, mais avec Dieu. Et il fallait qu'il en soit ainsi pour que personne ne puisse dire, « Voilà, j'ai fait la chose en beauté. Qu'en dis-tu, cher Dieu ?» Non, personne n'a rendu la chose belle. Mais Dieu, lui seul, a rendu sa chose belle et glorieuse par des instruments qui n'étaient rien, afin que finalement tout remerciement, toute louange et toute adoration lui soient offerts à lui et à personne d'autre. Paul était un homme si honnête. Cette honnêteté profonde manque à beaucoup de ceux qui se livrent à une telle mascarade. Toujours souriant et toujours joyeux, comme on chantait autrefois, toujours raisonnable comme il se doit. Mais il faut être ouvert et honnête. J'ai reçu un certain nombre d'appels aujourd'hui et une sœur de Suisse me dit, frère Franck, on ne peut pas toujours avoir un visage joyeux quand la douleur est si grande qu'elle est. À peine supportable. Et c'est bien ainsi, c'est ainsi que cela doit être. Pourquoi devrions-nous nous tromper et tromper les autres? Les Saintes Écritures disent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, 15. Un véritable enfant de Dieu pourra se mettre à la place d'un frère et d'une sœur, comme si nous étions nous-mêmes les personnes concernées. Et alors nous pouvons compatir, souffrir avec la personne. Alors la joie de l'autre, notre joie, est le bonheur. Et quoi que ce soit, jusqu'à la tristesse et la détresse qui peuvent toucher les individus. Nous partageons tout. Et cela va parfois plus vite qu'on ne le pense. Les gens qui sont aujourd'hui comme le frère, comme dit frère Branham, sur le toit, nous pouvons être demain quelque part tout en bas. Mais comme nous l'avons toujours dit, que nous soyons en haut ou en bas, nous sommes avec Dieu et Dieu est avec nous. Et nous ne laissons pas ces choses nous priver de ce que Dieu nous a déjà donné. La foi passe par l'épreuve. Nous devons faire nos preuves. Mais nous ne nous laissons pas priver de ce que Dieu nous a donné par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parfois, les épreuves sont telles que nous pensons qu'elles dépassent nos capacités. Et nous nous souvenons alors du passage biblique selon lequel Dieu lui-même ne tente personne, car il ne peut être tenté par personne, et chacun n'est éprouvé que dans la mesure où il peut le supporter. Personne n'est éprouvé au-delà de ce qu'il peut supporter. Parfois, cela ressemble ainsi, cela semble être ainsi, mais quand nous regardons en arrière, après coup nous disons, Seigneur, toutes ces épreuves par lesquelles nous avons dû passer nous ont rapprochés de toi, nous ont fortifiés dans la foi. Et il est aussi dit dans la mise à l'épreuve, la Bible parle en effet de toutes ces choses et c'est pourquoi nous devons les endurer. Donc, la leçon de ces trois passages bibliques de ce soir est la suivante. Dieu a un peuple avec lequel il fait l'histoire du salut. Dans la mesure où il s'apprête à réaliser et à accomplir des promesses, il exige l'obéissance et la foi, pour reprendre les termes de Paul, qu'il écrit dans Romains 16, pour opérer l'obéissance de la foi parmi tous les peuples païens. Romains 16, 26. Pas seulement la foi. Il y a aujourd'hui tant d'évangélistes qui ne parlent que de la foi, que des miracles. Un jour, tous ceux qui n'ont parlé que de la foi s'étonneront. La foi et l'obéissance vont ensemble. Et alors, Dieu est honoré par l'obéissance de la foi dans ma vie et dans la tienne. Et nous voyons ainsi que Dieu nous donne des leçons improbable, certainement parce qu'il nous aime, pas parce qu'il veut nous condamner, mais il veut nous dire ce soir, écoutez, regardez, j'ai fait de si grandes choses pour mon peuple Israël. J'ai accompli la promesse faite à Abraham. Je me suis montré comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je n'ai rien laissé sans avoir été accompli. Et pourtant, ils se sont égarés avec leur cœur. Avec leurs pieds, ils ont fait un beau voyage, comme cela devrait être le cas, n'est-ce pas? Il n'est pas dit qu'ils erraient avec leurs pieds, mais ils allaient bien. Qu'ils allaient tantôt là, mais avec le cœur. Ils s'égaraient dans leur cœur. À quoi me sert mon chemin? Même s'il était très beau et que le pays de Cana était déjà en vue, si je m'égare, et cela dans mon cœur, avec mon cœur, si je ne crois pas avec mon cœur, de mon cœur, si je ne fais pas confiance à Dieu avec mon cœur, dans mon cœur, et si dans le cœur il y a l'incrédulité, mais si je marche seulement parce qu'on marche, si je mange parce qu'on mange, si je me fais baptiser parce qu'on me baptise, et je fais tout comme ça, et mon cœur n'est pas dans la chose. Oh, bien-aimé, que Dieu fasse de nous des hommes qui marchent avec leur cœur sur le chemin de Dieu. Il est préférable de s'attacher à Dieu avec le cœur et peut-être de faire ici et là un bref égard, un bref écart avec le pied, mais de s'attacher à Dieu et à sa parole avec le cœur. Ces gens-là ont suivi Moïse avec leurs pieds et il a suivi la colonne de feu, lui, la colonne de nuée, le rocher qui les accompagnait. Et c'était Christ. Si l'on peut s'exprimer ainsi, ils suivaient Christ, n'est-ce pas? Ils suivaient le Christ. Il y avait le rocher. Et ils ont bien bu. Ils se sont rafraîchis. Puis, ils sont repartis. Et dans leur cœur, ils n'avaient pas compris ce que Dieu voulait faire d'eux. Ce que Dieu voulait faire d'eux. Avec comme projet avec eux. Bien-aimés, ce sont les jours où Dieu parle maintenant à nos cœurs. Pas à nos têtes. S'il parlait à notre tête, il pourrait aussi le faire à nos pieds, car la tête dirait encore aux pieds où ils doivent aller. Non, Dieu parle à nos cœurs. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Proverbe 23, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'y mettrai ma parole. Et j'inscrirai dans votre esprit ma loi. Ézéchiel 36, 26 et d'autres passages. C'est ce que chante un auteur de chansons. Un cœur comme le tien, plein de foi, plein des plus saints instincts, plein d'amour et de tout ce qui va avec. Aimer Dieu, lui faire confiance, le croire et ensuite marcher sur ses voies à travers tout ce qui nous a été donné comme exigence sur le chemin. La foi, la repentance, le baptême et toutes ces choses en font partie. Mais malheur à nous, si notre cœur n'est pas tout à fait dans la chose, n'est pas tout à fait à la hauteur. Et de quoi s'agissait-il à l'époque? Il est dit ici très très clairement, aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme vous l'avez fait dans l'irritation. À l'époque, le Seigneur parlait au peuple d'Israël et ce qui leur imposait la responsabilité d'écouter ce qu'il disait. Ce qui leur imposait, c'était la responsabilité d'écouter ce qu'ils disaient. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. C'est notre aujourd'hui. C'est notre aujourd'hui. Et si nous voulons l'exprimer en termes plus clairs, la parole de Dieu, en ces derniers jours, c'est la voix de Dieu qui nous a été adressée. C'est le discours de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Et alors, nous ne pouvons pas choisir ce que nous croyons et ce que nous ne croyons pas, et ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Nous ne sommes pas là pour que la parole de Dieu nous convienne. Nous sommes là pour que Dieu puisse nous faire entrer dans son plan et sa parole nous faire correspondre, nous ajuste pour que tout soit un jour juste aujourd'hui. Pour que un jour tout s'ajuste aujourd'hui. Quand vous entendez sa voix, maintenant il ne s'agit plus du peuple d'Israël. Maintenant il s'agit de toi et de moi. Au verset 15 aujourd'hui, quand vous entendrez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme vous l'avez fait dans l'amertume, dans l'irritation. J'ai pris la ferme résolution de tout transmettre tel qu'il nous a été laissé sans aucun retranchement. Ce que les gens disent ne nous a pas encore beaucoup servi à tous. Dieu ne demandera pas aux gens quand il nous jugera. Nous n'avons qu'une seule responsabilité et c'est envers Dieu. C'est lui qui a parlé, c'est lui qui a donné la parole. Et cette parole révélée pour notre temps, nous la recevons entièrement. Cela nous fait mal quand quelqu'un dit « oui, mais Paul a dit. Et si un ange descendait du ciel, oui, il l'a dit. Mais de la même manière, nous devons tout de même admettre que frère Branham n'a dit et enseigné que ce que Paul a dit et enseigné. Nous savons tous que nous ne sommes pas assis aujourd'hui dans un sermon que Paul aurait prononcé jusqu'à la nuit, mais que nous n'avons que quelques-unes de ses épîtres. Paul a prononcé un discours devant Agrippa, peut-être un autre devant Festus, qui nous ont été transmis, mais un sermon qu'il a prononcé dans l'assemblée de Corinthe, un sermon qu'il a prononcé dans l'assemblée ici ou là. Dans les assemblées, nous le trouvons pas transmis, seulement les lettres, les épîtres dans lesquelles il a traité certains sujets. Je vous le garantis, si nous nous étions assis au pied de Paul, puis ensuite au pied de frère Branham, nous nous serions assis les deux fois au pied de Jésus-Christ et nous aurions entendu la même parole par le même esprit révélée à tous ceux qui prennent au sérieux la voix de Dieu et qui répondent à ce qui a été dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, peu importe que nous comprenions ou non, parfois nous avons encore une compréhension romaine si claire et nous pensons que nous avons déjà pleinement reçu la sagesse de Dieu. Bien-aimés, Dieu est pourtant en train de nous aider, et cela en tout. Et cela n'a jamais l'air aussi beau chez les hommes. Vous savez, si l'on considère tout ce qui est écrit dans la Bible, ce qu'un tel a fait, ce que tel autre a fait, etc. Quand on lit le Coran, il n'y a que des proverbes. Il n'y a aucune erreur, aucune chose. C'est un livre qui va au-delà de tout. Donc, qui... Et que dit frère Branham à ce sujet? Il dit, que pensez-vous que David, que Moïse aurait écrit de ce qui le concernait s'il avait été celui qui écrivait? Si c'était eux-mêmes qui écrivaient, pensez-vous qu'ils auraient écrit tout ça? Et il répondit non, mais parce que c'était l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Ces hommes n'ont pas eu le choix. Ils ont été inspirés par l'Esprit de Dieu et ils ont dû écrire, même si cela les concernait eux-mêmes. Pas seulement, mais ils ont écrit clairement sans trembler, sans hésiter. Leurs mains bougeaient. Parce que l'Esprit de Dieu les avait fait bouger. Et nous en sommes reconnaissants aujourd'hui. Oh, nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce livre saint dans lequel sont écrites bien des histoires impies. Alléluia, louange, merci et gloire à notre Dieu. Il cherche des gens qui le croient, qui lui font confiance, pas des gens qui jouent au pieu, mais des gens qui ont du respect pour lui et pour sa parole, des gens qui tremblent quand il parle et qui disent, Seigneur, tu as raison. Et nous sommes tous dans l'erreur et avons besoin de ta grâce. Aujourd'hui, lorsque nous entendons sa voix, nous n'endurcissons pas nos cœurs. Je voudrais terminer par une pensez que frère Branham a également mentionné à plusieurs reprises lorsque le Seigneur Jésus a dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Jean 6, 53. Les disciples se tenaient là, les yeux fixés sur le Fils de l'homme. Et toute la foule regardait en se demandant, oui, comment allons-nous manger sa chair maintenant? Comment allons-nous boire son sang maintenant? Comment cela va-t-il se passer? Dieu avait fait dire par Moïse, le sang ne doit pas être bu, car la vie est dans le sang. Lévitique 17, 10 et 11. Et ici, le Seigneur, qui a parlé sur le mont Sinaï, s'adresse aux Juifs, qui connaissaient pourtant si bien la loi, qu'ils ne l'ont pas reconnu. Qu'ils ne l'ont pas reconnu, n'est-ce pas? Puis, frère Branham dit, le Seigneur a-t-il donné, ne serait-ce qu'un seul mot d'explication là-dessus? Non. Il a laissé les choses en l'état. Notre Seigneur ne donne des explications que lorsqu'il en donne. Et s'il n'en donne pas, c'est qu'elles n'existent pas. Paul développe plus tard et dit dans 1 Corinthiens 10 et 6, 16, pardon, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Voyez, Dieu a un temps pour tout. Là, dans Matthieu 10, notre Seigneur dit, n'allez pas vers les païens, allez seulement vers la maison d'Israël. Matthieu 10, 5. Mais dans Matthieu 28, il dit, allez donc dans le monde entier. Verset 19. Ces mêmes auditeurs auraient pu se regarder et dire, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Et le Seigneur dit, c'est au peuple d'Israël que l'évangile devait être prêché en premier. Actes 13, verset 46. Oh, personne ne pourra sonder la sagesse de Dieu. Ne commençons pas du tout par cela, mais soyons seulement introduits dans la volonté de Dieu. Tout sera juste à la fin. Avec Dieu, tout est toujours juste. Tout, de A à Z, tout est juste. Si cela ne semble pas être le cas ici, même pour le moment, un peu plus loin, le tableau s'arrondit et tout est clair et juste. Que Dieu fasse de nous des hommes qui marchent dans ses voies, des hommes dans le cœur et l'âme desquels la parole a été déposée en tant que semence divine, des hommes qui sont obéissants et qui suivent le Seigneur dans la foi. Que chez nous aussi, à la fin, il pourrait être écrit quelque chose de semblable à ce qui est écrit dans Hébreux 11. Il y est dit à plusieurs reprises, c'est par la foi que tout un résiste, à commencer par Abel jusqu'au dernier homme qui y est mentionné. Par la foi, tous ces hommes de Dieu ont vu, ont vécu les actes de Dieu qui étaient une confirmation de la parole qu'ils croyaient et ils ont été mentionnés, répertoriés. Si en ces jours, nous sommes de ceux qui croient de tout cœur à la parole de Dieu, nous devons être de ceux qui voient et pas seulement voient. De ceux qui voient les actes de Dieu. Et pas seulement voient, mais vivent cela. Vivent. Ils voient les actes de Dieu qui accompagnent sa parole. Jésus-Christ, le même hier, le même aujourd'hui et le même pour l'éternité. Pour toute éternité. Loué soit son nom. Amen. Louange et merci au Seigneur. Je suis reconnaissant pour la prédication de ce soir. Et vous aussi, je crois. Je crois que Dieu nous a en effet parlé par sa sainte et précieuse parole. Dieu ne nous a pas encore abandonnés, bien-aimés, et nous n'avons pas non plus besoin de l'abandonner. Il est avec ceux qui placent toute leur confiance en lui du début jusqu'à la fin. Du début à la fin, bien-aimés. Beaucoup n'ont peut-être fait qu'un commencement, mais Dieu veut des gens qui marche avec lui du début à la fin. C'est ce que nous voyons dans les Écritures. Et je suis reconnaissant pour ces 45 minutes de prédication, je suis reconnaissant que tout se soit si bien passé. L'un a mal aux dents, l'autre a mal à la jambe, mais nous levons les yeux vers nos dieux, vers notre Dieu. Et c'est à lui que nous voulons offrir l'honneur, la louange et l'adoration. Il ne nous a jamais abandonnés jusqu'à cette heure, jusqu'à cet instant. Où avons-nous déjà fait l'expérience qu'il nous a abandonnés? Non, il est avec les siens et il parle avec les siens. Je ne doutais pas que tant de choses sortiraient de la parole ce soir, que tant de choses brilleraient. Mais Dieu est capable de donner quelque chose là où nous ne le soupçonnons même pas. Nous sommes donc heureux et reconnaissants. Je pense que nous devrions maintenant encore manifester que nous lui offrons l'honneur et l'adoration. Frères et sœurs, levons-nous pour cela et adorons Dieu. Dieu fidèle, nous te remercions encore ensemble pour ta sainte et précieuse parole, pour ta parole, même en cette heure ce soir. Seigneur, nous savons que tu ne fais pas de vaines paroles, mais que ta parole est esprit et qu'elle est vie, ô Seigneur. Seigneur, que nos cœurs ne s'endurcissent pas, Seigneur, alors que nous avons entendu ta parole. Et l'appel de ta parole, mais remplis nos cœurs de foi, d'obéissance. Mon Dieu, mon cœur et nos cœurs à tous, Seigneur, nous te les donnons au Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, prépare-nous au Seigneur à être prêts, Seigneur, comme cela d'autrefois, Seigneur, était prêt à ce que tu les prennes et que tu agisses à travers eux, Seigneur, en ton temps, alléluia, louange et honneur, gloire et adoration, à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Alléluia. Amen.